France Inter. Le 18-20. Fabienne Saintès.
Samedi, à Paris, mais pas seulement, une nouvelle manifestation va crier son indignation, sa tristesse, sa colère devant le nombre ahurissant de féminicides et de violences sexuelles et sexistes. Il y aura du monde, le ton monte, c'est pas de l'impatience, c'est de l'exaspération. Alors on s'est posé la question, nous, dans notre petite équipe du Téléphone Sonne, comment on revient une fois de plus sur ces sujets. Et on s'est arrêté sur cette tribune dans Libération de mercredi dernier, signée par des hommes et un mouvement d'hommes, féministons-nous, des prises de parole au masculin qui apparaissent ici et là, qui apparaissent également sur les réseaux sociaux. Puisque c'est bien le comportement de certains hommes qui est dénoncé, puisqu'il faut que ça s'arrête, on s'est dit qu'on leur tendrait le miroir, comme le disent les invités que je vous présenterai tout à l'heure. Messieurs, comment comprenez-vous ce qui bouge en ce moment? Est-ce que vous interrogez votre masculinité, votre comportement, votre place dans ce qui secoue la société aujourd'hui? Et dans le féminisme, est-ce que vous agissez au quotidien pour mettre fin aux agressions sexuelles et sexistes? Est-ce que vous l'avez déjà fait dans la rue, interpeller le gars dont les mains sont baladeuses? Les hommes font forcément partie de la solution. Eh bien, venez nous dire comment vous voulez aider à renverser la table. Bienvenue à tous et à toutes aussi.
Le téléphone sonne. 01 45 24 7000.
Thomas, c'est vous le premier. Bonsoir Thomas et bienvenue.
Bonsoir.
Merci Thomas.
Pour mon appel.
Allez-y.
Eh bien écoutez, j'ai été très interpellé par le thème de l'émission parce que c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. J'ai une petite fille qui a 3 ans et pour moi c'est vraiment important qu'on puisse offrir aux hommes un autre modèle que ce qui aujourd'hui existe, c'est-à-dire d'offrir aux hommes un environnement dans lequel un homme puisse se sentir à l'aise par exemple, de pleurer devant ses pères, un modèle où un homme pourrait se sentir fort sans être violent ou se sentir fragile sans paraître faible. Voilà.
Merci beaucoup Thomas pour ce premier témoignage. J'ai juste une question du coup. Est-ce que vous avez, vous, changé des choses dans votre comportement, réalisé qu'il y avait un certain nombre de choses que peut-être même sans vous en rendre compte, vous faisiez que vous ne faites plus? Est-ce que vous avez eu ce genre de réflexion depuis tous ces mouvements, depuis ces 2 dernières années, on va dire?
Alors, je pense qu'il y a, chez moi, il y a eu une prise de conscience peut-être, oui, d'un positionnement... peut-être très ancré dans un vieux modèle patriarcal quelque part, c'est vrai que je pense que c'est très lié à des choses au jour le jour. Et c'est là où les vrais écarts se font. Et je repense notamment à la BD de Emma, cette illustratrice qui a parlé de la charge mentale. Et c'est quelque chose où j'ai vraiment eu, moi, une prise de conscience par rapport à ça. Et j'espère que ma femme validera qu'il y a eu du changement.
voilà. Passez-la nous. Merci.
Elle est pas à côté, malheureusement.
Ah bah écoutez, mais j'espère qu'elle nous écoute. Merci en tout cas, Thomas, pour ce premier témoignage qui nous permettra de lancer la discussion. Pour discuter ensemble ce soir et jusqu'à 20h. Camille Froide-Vaumétrie est là, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes philosophe, vous êtes féministe, professeure de sciences politiques, chargée de mission égalité, diversité à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. Votre dernier ouvrage paru l'an dernier s'appelle Le corps des femmes, la bataille de l'intime. Et bonjour à Laurent Maîtrie. Donc vous avez un lien de parenté, on est d'accord.
Bonsoir.
Vous êtes auteur, réalisateur et producteur. Et tous les deux, en ce moment, c'est pour ça qu'on a voulu vous entendre, vous tournez en couple, donc un documentaire, Les Mâles du siècle, qui interroge 5 générations d'hommes autour de leur rapport au féminisme et aux femmes. Est-ce que le féminisme, surtout, a changé pour eux? Bonsoir à vous, Noël Agossa. Vous êtes président de l'Association des familles de victimes de féminicides, porte-parole du collectif Plus Jamais Ça. Et je précise que vous l'êtes parce que votre nièce est morte sous les coups de son ex-conjoint. Et c'est ce qui a permis votre engagement, Monsieur Agossa. J'aimerais bien qu'on réponde, je vais commencer par vous, tiens, Laurent Maîtrie, à notre ami Thomas, qui nous parle au fond de l'idée d'offrir un autre modèle, en fait. Est-ce que c'est ça la bonne voie? Offrir un autre modèle, au fond?
Oui, c'est ça, mais c'est pas évident. C'est-à-dire que moi-même, je me suis retrouvé plusieurs fois en situation devant des actes, disons, sexistes, et finalement, on a du mal à réagir. On a du mal à réagir parce que on a l'impression qu'on tire un peu contre son bataillon. On peut aussi créer peut-être un scandale où on veut pas en créer un. Enfin, c'est très difficile.
C'est très difficile donc d'interpeller celui qui est responsable d'une agression ou même d'une remarque qui serait sexiste. Ça veut dire que les hommes ne le font jamais en fait.
On le fait pas souvent, on le fait pas souvent, on ne le fait pas assez souvent. Et nous, ce projet ce film qu'on est en train de tourner, c'est aussi pour tendre ce miroir et peut-être donner aux hommes l'occasion de se voir un peu mieux, de comprendre aussi ce que le féminisme fait ou a fait sur eux, et donc être un peu plus à l'aise avec ces réactions-là. Voilà.
Et Camille Froidot-Métry, au fond, ça commence peut-être par là. En effet, l'idée de simplement répondre, en fait. Alors, pas attendre de nous, les femmes, que nous répondions. On peut aussi le faire, hein. Et nous le faisons, j'espère, dans la plupart des cas. Mais aussi, les témoins autour, les gens autour, en fait, ceux qui assistent à ce genre de choses qui peuvent paraître extrêmement banales aux yeux de certains, mais dont on a, j'espère, fini par apprendre que tout ça était très loin de la banalité, en fait.
Oui, quand Laurent est revenu, mais il l'a fait plusieurs fois, mais une fois notamment en me relatant cette scène sexiste et en me montrant la violence de ce moment et en avouant en quelque sorte son...
Il y a la scène dans le début de votre film, parce qu'il y en a des petits extraits, vous dites, bah, qu'est-ce que t'as fait ?
Voilà, et pourquoi t'as rien dit ?
Pourquoi t'as rien dit ?
C'est la question, pourquoi t'as rien dit ? Ouais. Et quand moi je suis au contact de mes étudiants, par exemple, j'ai pu remarquer que c'était extrêmement difficile pour les jeunes hommes d'avoir cette forme d'auto-réflexivité, de prise de conscience. Et je l'ai forcé à le faire en leur demandant de venir à la séance suivante en me relatant une scène sexiste à laquelle ils avaient assisté, ne serait-ce que pour, disons, les habituer au repérage de ce qu'on considère trop facilement comme de simples blagues, alors même qu'on le sait, hein, c'est vraiment un des thèmes centraux, notamment de la marche de samedi, que de dire que le sexisme, c'est le terreau des violences sexuelles.
Quand votre mari disait à l'instant, on a peur de jouer contre notre camp, en quelque sorte, là aussi, peut-être que, moi je trouve ça plutôt très intéressant de se dire qu'au fond, ça veut dire qu'il y a deux camps, le camp des hommes qui font des blagues et le camp des femmes qui reçoivent ce genre de remarques. En tout cas, là où on en est aujourd'hui, au fond, on en est encore dans ces deux camps-là.
En fait, l'histoire du féminisme, elle est effectivement marquée par une forme de face-à-face que certains ont voulu juger conflictuelle. Les femmes contre les hommes, les femmes qui détestent les hommes, et puis les hommes qui résistent et qui ne veulent pas suivre le mouvement. Or, je crois, et c'est le moment vraiment crucial qui est le nôtre aujourd'hui, qu'on est arrivé à un moment de l'histoire du féminisme, de la lutte et de la pensée féministe, lors duquel les hommes ne peuvent plus esquiver ces questions. Pourquoi ? Parce que ce dont il est question, beaucoup ces temps-ci, c'est de toutes ces thématiques liées au corps des femmes et dans sa dimension la plus intime, liée à la génitalité, toutes ces questions de violence sexuelle et puis de consentement. Bref, c'est comme si les féministes, maintenant, demandaient aux hommes, ou leur adresser cette quasi-obligation désormais d'y prendre leur part. Parce que vraiment, ils ne peuvent plus faire comme si le féminisme n'existait pas.
Et Noëlle Gossin, on a l'impression que vous, votre part, vous la prenez au fond, mais est-ce que vous l'avez découverte en même temps que vous l'avez prise lorsque vous avez décidé de porter au fond, porter votre nièce qui était morte sous les coups de son ex-conjoint, quand on est un homme comme vous et qu'on porte un mouvement contre les féminicides? J'imagine que vous aussi, vous avez découvert des choses chez vous, comme chez ceux qui sont autour de vous dans votre association, en fait.
Bien sûr, aujourd'hui, on parle de féminisme en mettant l'accent sur les femmes. Et aujourd'hui, encore une fois, je pense que les hommes prennent leur place petit à petit. C'est vrai que c'est, comme a dit Laurent, c'est timide. Mm-hmm. Voilà, on n'en parle pas assez, c'est pas assez médiatisé. Moi, j'ai pris ma place, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas cherché, c'est tombé comme ça, en fait, il y a 3 ans. Lorsque Assetto a été lâchement assassiné, hein. Donc là, on se rend compte que, en fait, que les violences, en fait, c'est ça a toujours existé. Voilà. Mais on en prend conscience lorsque ça nous arrive.
Voilà. On dit souvent. Vous le saviez, mais vous le saviez pas, en fait.
Oui, voilà. En quelque sorte. Voilà. Hein. C'était. Oui, ça n'arrive qu'aux autres. Voilà. C'est dans les radios, dans les télévisions. Bref. On en passe, quoi, en fait. Et lorsqu'on est, en parenthèse, attaqué, il faut dire le terme. Là, on se rend compte que c'est pas la fiction, c'est une réalité. Voilà, c'est au quotidien, c'est tous les jours.
Il y en a beaucoup des hommes autour de vous dans l'association des familles de victimes de féminicide ou pas, hein, dans le collectif?
Alors,
que vous dirigez?
Alors, il y a beaucoup plus dans le collectif déjà. Okay. Voilà, hein, depuis le premier jour, et c'est assez timide. Mais on s'en rend compte beaucoup.
Et est-ce que ça bouge? C'est-à-dire que depuis ces 3 dernières années, depuis que vous avez commencé à le créer, est-ce que ça bouge? Vous voyez rentrer des hommes
énormément.
Au fur et à mesure, et peut-être que cette timidité est en train doucement de tomber ou pas?
Bien sûr, parce qu'en fait, la prise de conscience, en fait, c'est pas par rapport aux hommes qui ont frappé déjà, qui réfléchissent là-dessus, c'est aussi les gens qui ont peur, voilà.
Il y a beaucoup de mots dans le standard et c'est tant mieux. Bonsoir Marc. Ben Marc, oui, si vous êtes parti. Ah ben oui, vous êtes là.
Non,
bonsoir.
Non, je suis là.
Allez-y.
Là, je vous écoutais avec attention.
Allez-y.
Si vous voulez, je vais avoir 64 ans à la fin de l'année et moi, ce qui me marque, c'est que obligatoirement, je suis un après 68 art, comme on. C'est-à-dire que quand j'étais au lycée, j'étais en mai 68, j'étais en quatrième, mais je fais partie de. Enfin, moi, j'ai l'impression d'avoir accompagné toute ma vie la lutte des femmes, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on a connu, on a accompagné depuis les années 70 tous ces mouvements où nos mères, nos sœurs, nos amis, nos camarades de classe ont complètement, effectivement, voulaient trouver leur place. Enfin, c'est vrai que dans les années 70, il y a eu vraiment des développements absolument extraordinaires. Mmh. Et j'ai l'impression qu'on a été des milliers, peut-être des milliers d'hommes à accompagner. Nous, on est nés avec ça. C'est-à-dire que on n'était pas nous, hommes, on se considérait pas comme hommes d'un côté et nos copines de l'autre. On était complètement dans ce mouvement de défense de nos amies femmes.
Mmh. Alors, vous...
Et c'est vrai que cet accompagnement, peut-être qu'aujourd'hui, bon, il y a effectivement, il y a une bipolarité qui se redéveloppe avec les hommes et les femmes d'un côté, mais je pense qu'effectivement, faut jamais oublier que peut-être même que depuis la fin du 19e siècle, à chaque fois, il y a quand même des hommes progressistes qui ont...
Ah, mais alors... Pardon de vous interrompre, j'ai juste pas envie qu'on retourne jusqu'au 19e siècle parce que ça pourrait être long. Merci beaucoup pour votre intervention. Moi, ce que je trouve intéressant, Camille Froidevaux-Métry, d'abord, c'est il y a eu des hommes pour accompagner... Alors, bien sûr qu'il y a eu des hommes pour accompagner ce genre de mouvement-là. L'était-il autant que Marx semble le penser, y compris pendant cette période extrêmement importante pour le féminisme qu'a été les années 60, le début des années 70. Et est-ce que vous avez le sentiment que quelque chose s'est détaché là récemment?
Oui, alors effectivement, il y en a eu, bien évidemment, et ceux qui ont...
Il y en a eu, il y en a toujours, c'est pas voilà. Le propos de l'émission d'aujourd'hui, évidemment.
Voilà, mais on peut aussi procéder à une forme de réécriture un peu phallocentrée de l'histoire du féminisme, hein. Certains s'y sont essayés récemment, et je trouve ça un petit peu abusé, parce que d'ailleurs, les travaux l'ont montré, c'est-à-dire que, y compris dans les mouvements les plus progressistes des années 70, les hommes étaient d'abord très peu impliqués dans le féminisme lui-même, et lorsque les femmes étaient, elles, impliquées dans des mouvements disons de gauche, on sait très bien, les travaux d'Alban Jacquemart l'ont montré par exemple, qu'elles étaient reléguées comme toujours à faire le café et à jouer les petites mains. Je crois qu'il faut quand même regarder les choses comme elles se sont passées, c'est-à-dire que les luttes féministes, c'est bien d'ailleurs comme ça qu'elles se sont construites, c'est des luttes de femmes pour les droits des femmes qui se sont menées de façon extrêmement, enfin voilà, sans d'hommes. Alors effectivement aujourd'hui, il y a quelque chose, je trouve, il y a un petit déclic peut-être qui se passe et c'est un moment important parce que je pense que de l'intérieur du champ féministe, il faut qu'on puisse accepter cette bonne volonté des hommes qui veulent y prendre leur part. Et puis de la part des hommes aussi, accepter que quand ils viennent nous rejoindre dans nos combats, d'une certaine façon, ils restent, j'allais dire, à leur place, c'est-à-dire...
Et c'est là que c'est compliqué peut-être, Laurent Métry. Et je vous pose la question parce que nous, on se l'est posé aussi au moment de faire cette émission. On s'est dit, alors attends, enfin, la parole des femmes est libérée et nous, on va faire un plateau, on va parler des hommes. Donc, on va se faire défoncer et peut-être que les gens auront raison de nous faire ces remarques-là. Est-ce que c'est compliqué, cela dit, effectivement, de trouver sa place, même quand on veut en être réellement à l'intérieur de ces mouvements-là?
Oui, c'est difficile de trouver sa place, mais il y a aussi une chose qui se passe quand même, c'est que le féminisme, les effets du féminisme ne sont pas du tout les mêmes en fonction des générations,
bien
encore
sûr.
Une fois. C'est-à-dire que là, on vient d'entendre ce monsieur dont j'ai oublié le prénom.
Marc.
Marc, qui nous dit j'ai 64 ans. Bon,
14 ans en 68.
Ouais. Voilà, et on remarque vraiment que, voilà, avoir 20 ans aujourd'hui ou 20 ans en 70, on n'est pas du tout les mêmes par rapport au féminisme. Donc, c'est difficile de trouver sa place parce que ça dépend de l'âge qu'on a aussi. C'est-à-dire qu'en fonction de son âge, il y a des choses qu'on va dire naturellement, mmh. qu'on va penser, qu'on va faire naturellement. Et puis si on a 10 ans de plus, on ne les fera pas du tout, on pensera différemment. Donc c'est compliqué.
Mais vous, est-ce que typiquement là, dans une manif comme celle de dans deux jours, est-ce que vous trouvez que c'est compliqué de trouver même physiquement sa place, en fait, tout simplement? Et je vous vois faire comme ça avec la tête. Je le vois sur la pétition, j'ai trouvé ça à la fois intéressant et touchant. Nous marcherons le 22 novembre, etc., etc. Toutefois, nous ne chercherons pas à occuper la place physique et médiatique des principales concernées. Le cortège de tête leur appartient.
C'est ça. On est des soutiens, on est des alliés, et on a une position qui est pas facile parce que on est avec cette cause à fond, mais en même temps, on doit être un peu dans une espèce de position un peu derrière, comme ça, un peu masqué, pas masqué, disons, mais en retrait, voilà, en retrait. À la fois en retrait, à la fois fort, en étant bien sur nos appuis.
Donc au fond, y compris à l'intérieur de la manif, vous êtes assez représentatifs tous, Noël Agossa, vous ne me contredirez pas, de ce qui se passe en ce moment au fond dans les mouvements. Donc les hommes sont là, et oui. en même temps trop discrets, et en même temps ayant du mal à savoir exactement où il faut qu'ils se posent à l'intérieur de ces mouvements.
En fait, c'est important que les féministes puissent aussi laisser une place aux hommes, parce que les hommes aussi sont concernés. Hein, donc quand on parle de problèmes conjugaux, il y a aussi des couples hommes aussi à l'intérieur, hein. Il y a des choses qu'on parle pas trop, mais il faut que les hommes puissent prendre aussi leur place aussi. Moi j'ai pris ma place il y a 3 ans, l'année dernière aussi à la manifestation je l'avais fait, j'ai pris ma place en tant qu'homme aussi auprès de mes collègues femmes, et voilà, c'est ensemble qu'on essaie de faire changer les choses, c'est ensemble.
Place des hommes dans le féminisme, c'est aussi un débat qui se tient depuis, j'allais dire, ces 40 et 50 dernières années. Je voudrais qu'on retourne au standard, retrouver Xavier. Bonsoir Xavier.
Bonsoir.
Allez-y Xavier, on vous écoute.
Bah, j'ai un petit peu l'impression, je vous écoute avec attention depuis le début de l'émission, et j'ai un peu peur d'être peut-être hors sujet.
Oh bah non, je vous en prie.
Enfin, je me sens concerné par le féminisme. Ma mère était d'ailleurs féministe, et je pense que c'est important les combats qu'elle mène. Mais j'ai peur moi que il y ait des conséquences, en fait, que ça se retourne un petit peu contre le mouvement. Qu'il y ait certaines dérives, en fait. Je m'explique, moi, j'ai pas envie d'avoir une société à l'américaine où demain, on soit les hommes puissent être mis en examen ou, en tout cas, on va dire, doivent rendre des comptes pour des propos qui seraient jugés sexistes, par exemple, ou pour une attitude qui pourrait être jugée comme déplacée et...
Mais Xavier, je comprends ce que vous dites Xavier, parce que c'est un argument qu'on entend depuis ces deux dernières années aussi, en tout cas plus souvent, mais est-ce que vous avez le sentiment, vous, par exemple, qu'il y a des choses que vous ne dites plus ou pas?
Oui, concrètement.
Comme quoi?
Je le disais ce week-end avec des amis IES et des amis masculins, voilà. Moi, je leur disais très clairement, je ne pourrais plus agir aujourd'hui dans le milieu professionnel comme j'agissais il y a 10 ans.
Comme quoi, par exemple, pardon.
Il y a 10 ans, tous les matins, j'avais plaisir à passer dans les bureaux des collègues, les bureaux où il y avait particulièrement marketing, communication, donc il y a beaucoup de filles. Voilà, il y avait c'est un plaisir que de sortir des histoires. Voilà, on prend un café ensemble, etc. Et avec justement depuis ces deux dernières années là où on se sent je me surprends à passer beaucoup moins souvent, à faire attention à ce que je dis. Et alors, est-ce que c'est parce que aussi j'ai grandi?
Alors, Camille Froidevaux-Métry autour de la table a eu ce réflexe de dire tant mieux, mais moi aussi j'étais à deux doigts de dire la même chose. Xavier, si vous faites plus attention à ce que vous dites, j'ai envie de dire tant mieux. Non, vous croyez pas?
Bien sûr.
Oui, peut-être tant mieux, mais il n'y avait rien de condamnable. Je suis désolé.
Mais s'il n'y a rien de condamnable, alors faut continuer à le faire.
Mais ce qui est un petit peu inquiétant, peut-être pas, mais voilà, quand même, qui devrait mettre un petit peu la puce à l'oreille, c'est pourquoi j'en suis justement à modifier mon comportement, alors que je suis convaincu qu'il y a 10 ans, voilà, j'avais pas de propos sexistes.
Merci.
C'était juste, des relations de femmes, simples. C'est tout.
Eh ben voilà, simple. Voilà. Merci beaucoup Xavier pour votre témoignage, et c'est important qu'on ait des gens comme vous, évidemment, qui nous appellent aussi, qui ont ce genre d'interrogation. Pourquoi pas, j'aurais savoir d'abord, Laurent Maitry, si vous comprenez les interrogations de Xavier, cette espèce d'autocensure subitement, parce qu'il a le sentiment que il se comportait pas bien précédemment.
Oui, comment dire, là on a vraiment l'illustration de ce de ce que le féminisme fait justement dans la société, c'est-à-dire que il dit lui-même que il ne fait plus ce qu'il faisait il y a quelques années. Donc ça veut dire que ça travaille, voilà, et ça travaille. Et ce travail-là, il est en route, il est en chemin, et donc c'est vivant. C'est ça qu'on filme avec ce projet Les Mâles du siècle. Et Camille?
Oui, non. Je voulais te couper la parole, tu m'as pas laissé l'occasion.
Mais je vous en prie, mais coupez-lui la parole. Il y a bien un endroit où vous pouvez le
faire. C'est donner la parole sans qu'on vous la demande.
Cela dit, moi, j'aimerais bien pouvoir interroger les collègues de travail de notre ami Xavier pour savoir si elle regrette ces petits moments à ce moment-là, ou si elle se disent, ben, c'est différent d'il y a 10 ans et c'est peut-être mieux comme ça. Dommage, j'en sais rien. Allez-y, Camille Frogométrie.
Oui, ben, ce que montre aussi ce témoignage, c'est que il y a quelque chose qui vient déranger, qui vient bousculer, qui vient remettre en cause et qui met mal à l'aise et qui est peut-être inconfortable. Mais je crois que voilà, on est dans cette phase où les hommes doivent accepter de vivre dans un certain inconfort et doivent accepter aussi de se remettre en question, parce que ce que j'entends un petit peu en filigrane, c'est une espèce de réticence à voilà, c'était pas du sexisme, c'était juste des relations hommes-femmes toutes simples. Qu'est-ce qu'on peut en dire finalement? Est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, voilà, où on place le curseur entre...
Oui, mais c'est ça aussi qui est intéressant peut-être, c'est de se rendre compte que notre ami Xavier, mais comme il y en a peut-être d'autres, et c'est peut-être du coup important de le mettre sur la table, on pas perçu où était cette frontière-là.
C'est une évolution. L'homme évolue avec son temps. Donc voilà, passer dans les couloirs, dire bonjour, faire une bise, offrir un café, ou faire un bisou, des blagues un peu sexistes, c'était il y a 10 ans. Aujourd'hui, les choses ont changé. Il faut aussi que ça puisse être entendu dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, qu'on puisse avancer avec ça aussi. Hein. Donc, la passe du garçon, de l'adolescent, de l'adulte doit être aussi marquant aussi comme notre temps.
Ce que je trouve intéressant, c'est que c'est comme si en fait on pouvait pas juste boire un café et discuter, puisqu'on n'a plus le droit entre guillemets au petit passage un peu sexiste. Ah bah alors du coup il y a plus de café, il y a plus de bonjour, il y a plus rien.
C'est pas extrême, mais bon voilà, il y a comme a dit Camille, il faut un curseur pour ça, il faut réapprendre
la relation. Il faut, je pense que oui, dans la séduction, à plein de niveaux, au travail, en famille, à tous les moments de la vie, comme ça. En société, l'homme finalement doit réapprendre beaucoup de choses en fait, alors qu'il est là maintenant.
Éric, bonsoir. Éric.
Éric, oui.
Ah, bonsoir Éric.
Oui, bonsoir.
Allez-y, on vous écoute Éric.
Ah, à propos de la place des hommes, elle est encore à mon avis très 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 limitée. Exemple, j'ai animé le mois dernier à Angers une formation qui s'appelle Les bases des connaissances sur les violences sexuelles avec une amie gynécologue sexologue. Il y avait 41 personnes, 3 hommes. Okay. J'étais fin août à une réunion d'Oser le féminisme.
Dont vous?
Non, je me compte pas en tant qu'animateur. Fin août, une réunion d'Oser le féminisme à Nantes, à peu près 30 personnes, 2 hommes. Mm-hmm. Pour moi, il y a encore vraiment un déni de la violence des hommes sur les femmes. Et enfin, n'oublions pas aussi que les premières victimes, ce sont les enfants. J'étais bien placé dans mon enfance pour ça. Après des années de stress post-traumatique, là, je suis devenu psychothérapeute et j'aide au quotidien des femmes, en majorité, et aussi des hommes qui ont été victimes de violences sexuelles, souvent, mais pas que. Et c'est pour moi, c'est vraiment à l'image du manque de conscience et du déni, quoi, de la société, parce que la violence, ça crée une dissociation. On est coupé et on s'en rend pas compte, quoi. Et cette coupure, elle a des effets souvent au niveau pathologique, hein. On a des problèmes de santé ou des réactions complètement inadaptées au vu des circonstances. On surréagit souvent à certaines choses et on n'a pas le mode d'emploi, quoi. Mmh. Et pour moi, là, il y a un énorme problème de formation, hein. Déjà, des personnels médicaux. En médecine, il y a toujours 0 formation sur les violences sexuelles actuellement en France, à part apprendre à faire des prélèvements sur les femmes victimes, quoi. Mmh.
Ce qui est encore un autre problème, effectivement, mais vous avez bien raison de le souligner, Eric. Évidemment, j'ai juste une curiosité. Est-ce que vous engagez parfois les femmes qui sont là à venir avec leur mari, leur frère, leur père, etc. Est-ce que ou pas? Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'elles ont envie elles aussi dans ces moments-là d'être accompagnées, en fait, selon vous ou pas?
Non, j'ai pas eu le cas, mais j'ai plusieurs personnes, je vois plusieurs femmes qui ont été victimes d'inceste, hein, et de tout ce qu'on peut imaginer en reste, en plus de violences, de dommages collatéraux, qui sont dans les délais encore pour porter plainte et qui n'osent pas le faire.
Merci beaucoup pour votre témoignage, Eric, encore une fois. Camille François-Dométry, il y a deux choses, en fait. Il y a le fait que les hommes s'engagent, oui, qu'ils soient présents dans ce genre de manifestation, oui, qu'ils soient là dans des collectifs. Et puis, il y a ces moments et ces endroits où ils n'ont pas leur place, en fait. C'est parce que c'est pas la leur. Et peut-être que dans des réunions comme celle d'Eric, c'est peut-être aussi le cas. Il y a des endroits où on n'a pas envie de cette mixité, en fait. Et il faut aussi s'en souvenir, peut-être, non?
Il y a deux choses. Il y a des endroits, effectivement, où la non-mixité est importante, notamment quand il s'agit de parler des violences qu'on a subies. Et donc, c'est une sorte de prérequis très important de respecter la souffrance des victimes et leur volonté de se sentir dans des endroits safe, comme on dit. Et ça sera aussi sans doute le cas samedi. Il y a des endroits de la manifestation qui seront réservés aux femmes. Et c'est important que ça le soit. Et puis, mais il y a l'autre version du problème qui est que comment faire pour que les hommes puissent s'imaginer eux-mêmes que ces sujets et ces questions les concernent et qu'ils ont intérêt à aller à ces formations, à écouter ces conférences et à changer le regard qu'ils ont sur leurs propres conditions et à accepter d'une certaine façon de se mettre dans cette posture. Alors je sais que pour les hommes c'est difficile, que l'idée même qu'on puisse apprendre des choses ou se former, enfin moi je l'ai observé dans la sphère politique, c'est assez ahurissant, mais oui, cette posture un peu d'humilité, de se dire qu'il y a un champ qui leur est étranger, auquel ils ne connaissent rien, auquel parfois même ils ne veulent rien connaître, et qu'ils fassent cet effort de se mettre dans cette position d'apprentissage. Le féminisme, pour les hommes, c'est un apprentissage.
Et je la connais, la réponse, Laurométry, là, en ce moment, y compris dans une réunion comme celle que Eric nous raconte, ah ben, je ne vais pas y aller, il va y avoir que des filles. Comment on fait pour se pousser à y aller? Est-ce que vous l'avez fait, vous, par exemple, aller à ce genre de réunion, ce genre d'information?
Très honnêtement, je ne l'ai pas encore fait, mais pour pousser les hommes à y aller, et peut-être moi aussi, j'ai envie de dire que les enfants, c'est une bonne porte d'entrée, si je puis dire, au sens où ça veut dire que si on pense qu'il y a souvent une perpétuation des violences ou des comportements sexistes et des violences. On parle aussi des enfants de la famille. Ça traite aussi de ça, le féminisme. Et voilà. Donc, je crois que si un homme, par exemple, pense à ses enfants, par exemple, ou à ses petits frères, enfin, voilà, il aura plus envie d'y aller, il aura peut-être une bonne raison d'y aller. Et je crois qu'on parle de société là, c'est-à-dire que c'est pas seulement moi, l'homme, etc., ma position qui va être mise en danger, bien sûr que c'est inconfortable, mais est-ce qu'on doit pas penser un peu à ce qui va se passer demain ou après-demain avec des enfants qui vont être formés, voilà.
Et bien justement, Muriel est là, et Muriel, vous avez eu à peu près une expérience similaire à celle que Eric vient de nous raconter.
Ah oui, c'était très impressionnant. Alors du coup, mon employeur a organisé une pause déjeuner avec inscription sur la base du volontariat. Donc c'était une femme qui venait présenter une pièce comique sur le sexisme au travail. C'était extrêmement drôle. Suivi d'un débat, un auditorium de 160 places à peu près, et il y avait 4 hommes. La salle était pleine. Nous sommes à peu près 500 sur le site, 60% de femmes, 40% d'hommes. Je me suis quand même demandé où ils étaient tous là. Et on a passé un très très bon moment.
Est-ce qu'ils ont posé des questions après au moins? Est-ce que vous avez souligné le fait que certes il n'était que 4, mais ces 4-là étaient bien là?
Oui, ben complètement. C'était tellement visible, enfin c'était frappant. Moi je suis rentrée à ça, je me suis dit c'est une blague. Qu'on soit pas 50-50 soit, mais 4. Waouh. Alors ceux-là, oui, ils sont au tableau d'honneur.
Souvent, c'est eux qui prennent la parole, d'ailleurs, les premières questions.
Alors, j'allais exactement vous demander ça. Est-ce qu'il y a aussi ce sentiment que... Oui, alors, du coup, comme ils ne sont que 4, vous les voyez quand ils lèvent la main. Et est-ce qu'il y a eu cette tentation, justement, de les faire parler, eux, ou pas?
Oui, bien sûr. Bah, il y en a un des 4 qui a parlé. Et, enfin, voilà, c'était pertinent ce qu'il disait. Lui-même, papa d'une petite fille, est très intéressé. Enfin, se sent concerné par le sujet pour sa fille. Mais vraiment, où étaient mes collègues, quoi. Alors, monsieur, prenez votre place, vraiment. Il y a encore beaucoup d'espace à occuper.
Eh ben voilà, le message est passé. Merci beaucoup. Prenez votre place. C'est bien ce que vous dites aussi, Noël Agossa. Comment vous les faites venir, vous, chez vous, les hommes? C'est peut-être plus facile parce que c'est vous le président, donc c'est plus facile peut-être de convaincre. Mais ça, sérieusement, est-ce qu'il faut les prendre par la main? Est-ce que vous le faites?
Alors, on le fait, et en inbox, hein, pour répondre à Manu Gem, hein, qui est ma collaboratrice, qui a beaucoup travaillé là-dessus, on répond beaucoup aux hommes, en privé. C'est vrai qu'au début, c'est des messages en privé, voilà, il y a des hommes qui parlent de leurs histoires personnelles aussi, de leur mea culpa, il faut le dire, et d'autres qui ont envie de s'engager aussi, parce que, bon, voilà, il y a l'engouement d'aujourd'hui, et aussi, comment dire, Laurent, les papas, voilà, qui veulent transmettre des choses mais qui savent pas, voilà, hein, parce que donc le féminisme aujourd'hui c'est devenu quelque chose d'assez énorme. Il y a plein de sujets, et pour attirer un homme, il faut qu'il soit concerné. Donc il faut des mots, il faut des gestes, il faut des paroles où il se sent vraiment impliqué là-dessus.
Et c'est fou parce qu'il l'est concerné de fait, puisque on parle de violence sexuelle et sexiste, et pour ça il faut être deux toujours. Donc il l'est de
absolument,
fait.
Mais
qu'est-ce que je trouve ça intéressant ce que vous dites, surtout le fait que vous répondez à des messages privés.
Oui.
Ça veut dire que au premier abord, et peut-être pendant longtemps avant, peut-être que vous ne les voyez, ces hommes-là chez vous, il faut les amadouer, il faut répondre à des questions, il faut les amener doucement en fait.
Vous savez, parfois on a affaire à des curieux,
ouais.
Triste à dire, voilà, qui posent des questions parce que voilà, comme vous vous souvenez, quand t'es enfant, on dit ouais, j'ai un ami qui veut ça, etc. Alors qu'en fait, c'est lui.
Ouais, ouais, bien sûr.
Voilà, ça m'est déjà arrivé.
C'est pour un ami.
Donc c'est pour un ami, voilà, je me renseigne pour un ami.
Ouais, ouais.
Et au bout du 3, allez. Quatrième question, on sait que c'est lui. Et petit à petit, on échange nos téléphones et après, on voit que les choses avancent.
Vous êtes un homme patient, Laurent Métry ?
Oui, non, c'est ce que je remarque aussi en tournant avec ces hommes. Là, on a fait quelques quinzaines d'entretiens avec des hommes de différents âges et on s'est aperçu qu'il y a plein de sujets sur lesquels où vraiment ça se crispe, ça gesticule sur sa chaise. Il y a des silences, il y a des mensonges, il y a des voilà. C'est vrai que c'est voilà, c'est pas une position confortable. Voilà, pas confortable.
À quel moment ça se crispe en fait dans la conversation que vous avez avec eux? Parce qu'effectivement, vous interrogez des générations d'hommes, 5 générations différentes, donc des générations de féminisme aussi. À quel moment vous sentez ce repli-là? À quel moment la question devient gênante, en fait?
Quand on parle un peu de violence, quand on parle du quotidien, on peut aussi avoir des choses. Si on parle des tâches ménagères, on peut avoir des choses comme ça. Enfin, tous les domaines ont à un moment donné une petite... Il y a des petites... une raideur qui arrive, où on est moins à l'aise, et effectivement, on va prendre l'exemple de j'ai un ami qui, je pourrais faire une séquence très longue de j'ai un ami qui. Donc ça veut dire des choses.
Est-ce que vous les interviewez ensemble ou pas?
Non, surtout
vous
pas.
C'était le sens de ma question. Est-ce que le même homme interrogé dans votre film dirait des choses finalement assez différentes selon que vous l'interviewez ou Camille?
Ah oui, complètement différentes. Non, c'est pour ça.
Moi, il dirait rien.
Voilà. Je me demandais si vous aviez fait le test, en fait.
Les questions sont de Camille, mais moi, je leur pose ces questions, je les adapte un petit peu, et puis c'est une question de confiance aussi. Et je pense que non, ces hommes ne pourront absolument pas s'exprimer devant une femme ou deux femmes, ça c'est sûr que non.
Et c'est vraiment passionnant. François nous attend depuis 20 minutes. Pardon François. Allez-y François.
Allô?
Ah allô,
voilà.
Vous y êtes, on vous écoute.
D'accord, bon, mais c'est pas grave, hein. J'étais en train de jouer aux cartes avec ma fille.
Voilà. Vous la laissez gagner, j'espère.
Bah, elle m'a foutu une sacrée heure.
Est-ce que vous jouez de l'argent?
En vous attendant, oui. Donc, voilà. Donc, c'était juste pour vous dire que bon, moi, à titre personnel, je milite pas, hein, je m'engage pas dans des associations, mais il y a 3 ans de ça, j'ai une amie qui est mariée avec un pervers narcissique qui lui faisait subir du harcèlement moral. Et elle en avait parlé déjà plusieurs fois à ses amies féminines, ses copines. Mais le fait que je lui ai dit, moi-même étant un homme, que c'était anormal ce qu'elle subissait et que c'était pas acceptable, ça a fait un déclic. Et bon, ensuite, je l'ai suivi pendant plusieurs temps, le temps de la procédure. Mais elle s'est enfin sortie de son emprise. Et donc, je pense que prendre la parole, on peut tous le faire de façon individuelle. Et parfois, ça peut marquer, et parfois, ça peut aider aussi à faire son chemin de façon individuelle. Il y a 3 semaines de ça, c'est de la même façon. Bah, j'étais avec ma fille, voilà. Mais elle faisait ses devoirs un matin, et j'ai entendu le compagnon de ma voisine qui l'insultait. Et c'est monté dans les tons et je suis descendu et je lui ai dit que j'entendais des choses qui n'étaient pas acceptables. Là-dessus, j'ai ma voisine qui est venue qui m'a dit qu'elle était désolée pour le bruit. Mm-hmm. Je lui ai dit, c'est pas le bruit qui me ouais. pose problème, c'est les mots que j'entends à votre rencontre. Mm-hmm. Et je lui ai dit, voilà, le compagnon en question, il m'a dit, ouais, mais en quoi ça vous regarde? Je lui ai dit, moi, je veux juste voir ma voisine, si tout va bien pour elle. Mm-hmm. Et j'ai appris qu'une semaine plus tard, elle l'avait larguée. Voilà, alors je ne sais pas si mon intervention a à nouveau permis de faire la démarche, mais
eh ben, peut-être.
Peut-être. Mais en tout cas, je pense qu'il est important que nous-mêmes, on prenne la parole face à cette situation sans avoir besoin de faire partie de collectifs mmh. ou à titre individuel, et puis qu'on se débarrasse de ce virilisme millénaire qui nous emprisonne autant qu'il emprisonne les femmes. Quoi.
Voilà.
Moi, je suis un homme, j'aime jouer avec mes gosses, je leur fais à manger, je m'amuse avec eux, j'assume mon côté, entre guillemets, féminin. Quoi.
Voilà, il voilà. n'y a rien de féminin à l'idée de faire à manger aux gosses d'ailleurs, mais j'ai bien compris, c'était pour vous taquiner, François.
Voilà, pour mon père, par exemple, qui était ouvrier, je ne l'ai jamais vu toucher une casserole, ou les seules fois où ma mère, une fois, s'est trouvée malade, j'étais tout petit, il a été obligé nous faire un repas, mais c'était immangeable, c'était dégueulasse.
Et vous vous en souvenez encore, donc.
Voilà, ouais, mais je me suis dit, je veux pas être comme ça, quoi.
Merci vraiment, François.
Donc voilà.
Merci beaucoup.
Intervenir individuellement.
Merci, voilà. On va vous laisser à votre partie de carte avec votre fille, mais.
Parce que là, on fait la revanche maintenant.
Bah oui. Allez-y, profitez-en, méfiez-vous et faites-lui remonter les manches parce qu'elle a peut-être planqué des cartes, allez savoir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Moi, je trouve ça intéressant, Noël Agossa, ce que dit François. Alors, bravo à François pour ce genre d'attitudes qui sont exactement celles qu'il faut avoir. Quand un homme se lève pour faire une remarque à un autre, donc qu'on soit dans le métro sur une remarque sexiste, sur une main baladeuse, là sur un homme qui crie trop fort, quand l'homme se lève et fait face à l'autre homme, visiblement ça marche mieux que si c'était l'une de nous qui nous mettions en face de lui en fait.
Absolument, ça m'est déjà arrivé un jour dans le RER à Villeneuve-Saint-Georges, un monsieur qui était assis à côté d'une femme qui était en mini-jupe avec des collants de barésie, très visuel. J'étais pas loin, donc j'ai cette image-là. Et la dame l'a regardé, pourquoi vous me regardez? Et l'homme a dit, ben écoutez, vous êtes en mini-jupe, vous mettez vos jambes en visu, en parenthèse, excusez-moi du terme, c'est pour qu'on puisse les remarquer. Et là, vous imaginez, dans le RER, les gens commençaient à se lever, l'homme aussi énervé, en colère, limite. Voilà, donc moi, j'étais derrière, j'ai dit, bon, faut que j'agis, quoi. Hein, et je me suis dit, mais comment on peut raisonner un homme qui est en colère face à une femme qui n'a rien fait, qui est assise, qui lit son livre et tout. Mm-hmm. Et là, j'ai dit, monsieur, s'il vous plaît, vous dérangez un peu cette gentille dame-là, quoi. En fait, hein, voilà, on a le droit de s'habiller comme on veut en France, quoi, hein, tout simplement. Bon, il était costaud. Mais je pense finalement il s'est...
Et vous êtes costaud aussi. Non mais ça compte, hein, c'est terrible, ouais. Hein, mais ça compte.
Voilà, je pense qu'il a baissé un peu le ton, voilà, et j'étais dans un ton assez costaud aussi, hein, comme lui, et il s'est calmé. Après il est sorti, après au bout du deuxième arrêt, je crois, voilà. Donc c'est des choses qu'on voit tous les jours, malheureusement. Et moi j'ai envie de parler aussi de la marche d'après-demain,
ouais.
Hein, et j'invite les hommes à venir, hein, à venir vraiment massivement, à ne pas juste laisser la place de la lutte seulement aux femmes. Il faut aussi que des hommes puissent parler aussi, marcher et montrer aussi qu'ils sont contre ces violences-là et contre ces crimes, contre ces féminicides. C'est important. C'est important aujourd'hui dans le 21e siècle qu'on puisse vraiment être ensemble pour ce combat.
Et j'espère que ce message-là, il a évidemment été transmis, j'en suis sûr. Un petit mot de conclusion, Camille Favre-Métry, peut-être vous voyez faire des pouces comme ça lorsqu'on entendait François parler.
Oui, c'était.
Il y en a des François, c'est aussi important à dire. Évidemment qu'il y a des François et aussi des Laurent comme le vôtre qui sont capables d'avoir ce genre de comportement.
Voilà, je vais me permettre de dire que ce projet sur les mâles du siècle, on est en train de le mener à son terme et qu'on a besoin de soutien, notamment dans le cadre d'une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. Et donc, si vous souhaitez que les hommes prennent davantage leur part et puis les entendent peut-être aussi un peu sur ces questions du féminisme qui sont si importantes,
et ben
merci
voilà.
par avance.
Et ben, je vous en prie. Vous avez tweeté, le téléphone sonne, donc on vous retrouve facilement grâce à Twitter. Merci à tous, merci vraiment à vos nombreux appels.
Merci à vous.
Comme d'habitude, Laura Adler sera là dans 3 minutes sur France Inter, sinon il est 20h.